In a karting time, I knew he was good, but I never think that he's better than me.
Dimanche 27 août 2000, circuit de Spa-Francorchamps. Nous sommes au 40e tour du Grand Prix de Belgique, 13e manche du championnat du monde de Formule 1. En tête de la course, Michael Schumacher voit la McLaren de Mika Hakkinen recoller depuis plusieurs tours, mais sans parvenir à trouver l'ouverture. Mais à l'entame de cette 40e boucle, le Finlandais s'engouffre dans le mythique raidillon de l'eau rouge, pied au plancher, et en ressort à portée tir de la Ferrari de son rival. Devant les deux hommes, la BAR de Ricardo Zonta. Schumacher serre à droite pour profiter de l'aspiration du Brésilien avant de se décaler à gauche pour aborder le freinage des combes, pensant ainsi coincer son adversaire. Mais Hakkinen garde sa ligne et émerge par la droite, en tête, en s'offrant le scalp à la fois de Schumacher et de Zonta, involontaire spectateur VIP du duel que se livrent alors les deux doubles champions du monde.
Michael's having to defend, and Mika, and there's a, the back marker's in the way. Can he do it? Yes, he's done it. A brilliant move there, either side of Zonta, and Hakkinen brilliantly takes the lead of the Belgian Grand Prix.
And you can see the delight in the McLaren garage.
Ce dépassement devenu mythique pour de nombreux fans de Formule 1 représente le point d'orgue de la rivalité entre le futur septuple champion du monde et celui qu'il considérait comme son plus féroce rival. Une sorte de revanche pour le Finlandais après leur première passe d'armes 10 ans plus tôt, c'était en F3 sur la piste de Macao. Comme chaque année, la Mecque de la catégorie se retrouve sur le tracé urbain pour clôturer la saison. Hakkinen y pose ses valises en favori, lui qui a survolé le championnat britannique et battu les pilotes du championnat allemand, dont un certain Michael Schumacher, un autre jeune talent aux dents longues. Le début de week-end tourne d'ailleurs à l'avantage du grand blond, jusqu'au départ de la deuxième manche où il se fait surprendre par Schumacher, qui ne parvient toutefois pas à se défaire d'Hakkinen qui le suit comme son ombre. Dans le dernier tour, Michael sort large dans un virage et Mika ne demande pas son reste pour s'engouffrer dans l'espace laissé libre par son adversaire du jour. Mais Schumacher se rabat au dernier moment sur le Finlandais, le poussant contre le rail et à l'abandon.
Schumacher. And Hakkinen so close, and Hakkinen looked at it then. Hakkinen wants it badly. Dodging about, oh, and he's caught the back end of Schumacher's car, and he slams the wall. Hakkinen has ripped the front off his rope, and that's it. It's all over for Mika Hakkinen, and he knows it, and it may well be over for Michael Schumacher too, because the back end of the Reynard hanging off there, the wing off, and Hakkinen so angry about that.
Un coup de volant qui en rappellera d'autres quelques années plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. La suite pour Mika Hakkinen, c'est la F1, avec d'abord une séance d'essai à Silverstone, au volant d'une Benetton, puis comme titulaire dès 1991 avec Lotus. Naïf, le jeune prodige finlandais pensait alors débarquer et se battre immédiatement pour la victoire. Là, il devra vite se rendre à l'évidence que le grand cirque est un tout autre monde dans lequel le pilote dépend très souvent de sa machine, et à l'époque, la jadis glorieuse écurie Lotus est exsangue. Il y usera malgré tout ses fonds de combinaison durant 2 saisons, réussissant quelques coups d'éclat, notamment lors du Grand Prix du Mexique 1992, qu'il termine en 6e position. L'année suivante, il accepte un poste de pilote d'essai chez McLaren, pas au meilleur de sa forme non plus. Il lui faudra alors attendre son 96e Grand Prix lors de l'ultime épreuve de la saison 1997 pour enfin s'imposer. Ce qui ne l'empêchera pas de s'illustrer avant cela, et notamment lors de sa première course pour McLaren en fin de saison 93 au Portugal. Alors appelé en remplacement du décevant Michael Andretti, Hakkinen s'offre le luxe de battre son équipier, un certain Ayrton Senna, dans l'exercice de la qualification. Une performance saluée par le Brésilien, non sans avoir au préalable passé une bonne heure à analyser les datas. Et lors du Grand Prix suivant, si c'est Ayrton qui s'impose, Hakkinen continue de surprendre en s'adjugeant la 3e marche du podium derrière son équipier et Alain Prost. C'est ce qu'on appelle être en bonne compagnie. La suite, elle sera marquée par son accident lors des qualifications du Grand Prix d'Australie 1995 sur la piste d'Adélaïde. Alors en pleine décélération pour aborder la courbe de Brewery Bend, sa MP4-10 décroche brusquement à cause d'une crevaison à l'arrière gauche. Après plusieurs chocs contre les rails, la monoplace du Finlandais finit par s'encastrer frontalement à plus de 200 km/h. Inconscient, le pilote ne doit sa survie qu'à la présence toute proche des commissaires de piste, dont Stefan Lewis, diplômé en neurochirurgie et spécialisé dans les lésions cérébrale qui lui pratiquera une trachéotomie à même la piste. À l'hôpital, Häkkinen demandera à Lewis s'il serait encore capable de marcher, sous-entendu, de conduire une monoplace, l'instinct de compétition. Remis sur pied, le Finlandais reprendra l'entraînement dès janvier de l'année suivante pour être au départ de la première course en Australie, mais cette fois sur le tout nouveau tracé de l'Albert Park à Melbourne. Épreuve qu'il terminera en 5e position, et pour la petite anecdote, ce sera également sa position finale au championnat cette saison-là. Les saisons 96 et 97 seront de nouvelles années de transition avant ce premier succès de Jerez en plein duel entre Jacques Villeneuve et Michael Schumacher pour le titre mondial. Un Schumacher dont Häkkinen recroisera la route à partir de 1998 grâce à un binôme McLaren-Mercedes enfin à maturité. Mais malgré une MP4-13 au-dessus de la Ferrari, la lutte pour les titres se jouera jusqu'en fin de saison au Japon. Épreuve durant laquelle Michael Schumacher devra abdiquer face à son rival finlandais. L'année suivante, on prend les mêmes et on recommence, enfin presque, et en tout cas jusqu'à Silverstone et l'accident de Schumacher dans le premier tour de l'épreuve. Face à un Eddie Irvine parachuté leader de la Scuderia, Häkkinen semblera avoir une baisse de motivation et une baisse de régime. Une fois encore, le titre se décidera alors en fin de saison, avec Schumacher revenu contre son gré, jouer les porteurs d'eau de son ancien numéro 2.
Well, very difficult year and deciding the championship in the last Grand Prix, it's nerve-cracking and I really don't recommend it to anybody that experience and I now experienced that with the Michael last year and now with Eddie this year. I hope it's enough already.
Et pourtant, l'année suivante, c'est une nouvelle fois au Japon que le titre pilote sera attribué, mais cette fois, c'est Michael Schumacher qui coiffe la couronne, grâce à une stratégie particulièrement audacieuse, mettant fin à plus de 20 ans de disette pour les hommes de Maranello. Se battre pour deux championnats, c'était déjà épuisant, mais pour trois, c'était sans doute de trop. Et en 2001, au volant d'une McLaren en deçà de sa rivale rouge, le Finlandais ne volera plus, dominé par son équipier David Coulthard, qui ne pourra malgré tout pas faire illusion longtemps face à l'armada italienne menée par un Schumacher assoiffé de succès. Plus que le manque de victoire, puisqu'il s'imposera à deux reprises, il abandonna dans le dernier tour en Espagne. C'est sur un tour que la chute de performance du double champion du monde était la plus criante, avec zéro pole position cette année-là. Et pour certains, c'est ce fameux duel de Spa 2000 qui marque l'apogée de Mika Häkkinen en Formule 1, comme un sommet qu'il ne pourrait plus jamais égaler, ce moment où il a pris conscience que pour faire mieux, il allait devoir surconduire. Et la flamme qui l'avait poussé à remonter dans un baquet après l'accident d'Adélaïde 95 n'était sans doute plus suffisamment vivace. Le 14 septembre 2001, Mika Häkkinen annonce qu'il quittera la Formule 1 au terme de la saison, pour ce qui est alors présenté comme une année sabbatique. René Nys lui promet alors qu'un volant l'attendra jusque fin 2003. Et pour le remplacer, il jettera son dévolu sur un autre Finlandais prometteur nommé Kimi Räikkönen et dont on devrait reparler dans un prochain numéro. Et ce qui avait été annoncé donc comme une année sabbatique deviendra rapidement une retraite définitive de la discipline et un running gag pour les fans. Malgré des rumeurs l'annonçant chez Williams ou encore chez BAR à l'été 2004 ou des essais menés pour McLaren en novembre 2006. Des essais qui le convaincront que son temps en Formule 1 était bel et bien passé après 10 saisons, 165 Grands Prix, 51 podiums, 26 pole positions, 25 meilleurs tours, 20 victoires et, évidemment, 2 titres mondiaux. Il raccrochera définitivement le casque fin de la saison 2007 au terme d'une ultime campagne dans le championnat DTM auquel il participait depuis 2005 et dans lequel il s'est imposé à 3 reprises. Voilà, c'en est terminé pour ce premier épisode de Champions. Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast. Nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures.